Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Nous irons en Pologne où le second tour de l'élection présidentielle s'est tenu hier. Les premiers résultats donnent une légère avance au président conservateur sortant, mais rien n'est encore fait.
Reportage à suivre en Afrique du Sud qui va de nouveau respecter un couvre-feu pour lutter contre la propagation du coronavirus après une recrudescence des cas de Covid-19.
Un accord majoritaire avec des moyens inédits. Jean Castex se félicite d'avoir trouvé un accord la semaine dernière sur les salaires des soignants. Il devrait être signé aujourd'hui. Le jour s'est levé et l'incertitude ne s'est pas dissipée en Pologne au lendemain de l'élection présidentielle. Le sortant, Andrzej Duda, ultra-conservateur, semble disposer d'une légère avance de quelques dizaines de milliers de voix par rapport à son rival, le libéral Rafał Trzaskowski. Des résultats encore partiels. À Varsovie, Ludovic Piétenu.
Quand il monte sur scène hier soir devant ses partisans, Rafał Trzaskowski ne s'avoue pas vaincu, bien au contraire. Il suffit juste de compter toutes les voix, dit-il. La nuit va être très stressante en Pologne, mais je suis absolument convaincu que si on recompte chacun des bulletins de vote, on va remporter la victoire, c'est sûr et certain. Un peu plus d'optimisme gagne alors la foule, tandis que la télévision publique annonce sans conditionnel la victoire de Duda, qui invite son adversaire à venir lui serrer la main et reconnaître sa défaite. C'est de la pure propagande, selon la députée Katarzyna Lubnauer, vice-présidente de la coalition civique, l'opposition au président sortant.
Ils jouent un sale jeu. Ils ont organisé des élections d'une manière pas démocratique. Ils possèdent le pouvoir sur le média public. Donc maintenant, ils vont essayer de faire tout à inviter Rafał Trzaskowski dans le jeu mensongère.
Ce n'est peut-être que le début d'un long feuilleton en Pologne. Son camp, ce centre droit pro-européen, envisage, dit-elle, des recours devant la Cour suprême. À moins d'un revirement qui leur soit favorable grâce au vote des grandes villes et celui des Polonais de l'étranger, il faut donc attendre le résultat définitif, sans doute pas avant demain.
Après deux jours de troubles sanglants, au moins 11 personnes sont mortes à Bamako. La manifestation de vendredi contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a dégénéré en affrontements violents avec les forces de l'ordre. Dans une tentative d'apaisement, le président a annoncé la dissolution de la Cour constitutionnelle. Écoutez le journaliste indépendant et spécialiste du Mali, Vincent Hugeux.
Soyons clairs, elle est amplement légitime, et ce sur plusieurs fronts. D'abord, le fiasco sécuritaire. Le Mali fait partie de ces pays qui plongent aujourd'hui dans une situation de plus en plus inquiétante. Ensuite, marasme économique sans fond. Une corruption endémique qui cristallise l'hostilité d'une bonne partie de ce mouvement du 5 juin, le M5, qui, c'est vrai, est une coalition assez hétéroclite, où vous retrouvez des dignitaires religieux, des leaders politiques et des figures de la société civile. Et enfin, dernier point, qui résume un peu tout ça, c'est la faillite de l'État. C'est-à-dire que qu'il s'agisse de services publics aussi élémentaires que l'eau, l'électricité, eh bien, on peut considérer que le Mali, de ce côté-là, présente un bilan assez calamiteux. Derrière tout ça, il y a un objectif, une cible, c'est tout simplement le départ d'Ibeka avant le terme de son second quinquennat.
Et hier, l'imam à la tête de la coalition qui réclame un changement de pouvoir a appelé au calme. La pandémie de Covid-19 se poursuit avec par endroits le retour de mesures de restriction. Comme en Afrique du Sud, principal foyer épidémique du continent africain, 260 000 cas ont été recensés. Le virus a déjà fait près de 4 000 victimes dans le township d'Alexandra, zone très pauvre dans la banlieue de Johannesburg. Le reportage de Claire Bargelès.
Le pays enregistre désormais près de 13 000 nouveaux cas par jour. Pourtant, Camorello, 21 ans, continue à sortir sans masque dans les rues du township pour jouer au dé avec ses voisins.
Nous, les jeunes, on ne pense pas que le virus soit présent ici. Comme vous le voyez, les gens ont repris leur vie. Oui, les cas augmentent, mais on ne se fait pas trop de soucis, finalement.
Son ami Carisso l'a rejoint cet après-midi. Mais le jeune homme est, lui, plus inquiet au vu de l'évolution de l'épidémie.
Les gens meurent à cause de ce coronavirus. On se demande ce qui est en train de se passer, c'est choquant. Je ne pense pas qu'on soit prêt. Je voudrais qu'on retourne à un confinement strict pour que l'on soit plus discipliné et en sécurité. Les gens n'ont pas de masque, pas de distance d'un mètre, rien du tout.
Les hôpitaux commencent à manquer de lits et d'oxygène et cela préoccupe Tambi Zandile qui regarde avec désapprobation sa rue très animée.
Moi j'ai très peur de tout ça. Je pense que les hôpitaux ne sont pas prêts, ils sont déjà surchargés en temps normal. Et les écoles, je voudrais qu'elles restent fermées. Ma fille devait reprendre, mais je ne l'ai pas amenée. Elle reste à la maison.
À l'approche du pic, le gouvernement régional a annoncé la semaine dernière préparer les cimetières et augmenter leur capacité en cas de décès de masse.
Et en Catalogne, 160 000 personnes de la région de Lérida vont être reconfinées. Avec près de 300 morts supplémentaires au cours des dernières 24 heures, le Mexique est désormais le quatrième pays comptant le plus de décès liés à la Covid-19, derrière les États-Unis, le Brésil et le Royaume-Uni.
France Culture 7h05, nous signerons un accord majoritaire dégageant des moyens inédits pour les soignants, a déclaré hier Jean Castex.
Signature prévue aujourd'hui à Matignon. L'accord prévoit notamment une augmentation des salaires des aides-soignants et des infirmiers très sollicités pendant la pandémie. Les syndicats avaient jusqu'à maintenant pour consulter leur base et décider de signer ou non cet accord négocié la semaine dernière, Lina Tagui.
Principal enjeu de cet accord, la revalorisation des salaires. Les syndicats avaient demandé 300 €, ce sera finalement 180 € net par mois. Pour Bruno Lamy, secrétaire général adjoint de la CFDT Santé Sociaux, c'est déjà une bonne chose.
Pour la CFDT dans sa globalité, c'est un accord historique. Ce qui est pour nous important aussi, c'est que c'est vraiment un Ségur de la santé, puisqu'il aussi concerne les professionnels du champ associatif et les professionnels du secteur privé lucratif, qui eux aussi vont avoir une revalorisation. Nous attendons depuis très très longtemps, par exemple, que les aides-soignants dans le secteur public changent de catégorie, passent en catégorie B. C'est fait dans cet accord.
Dans cet accord, il y a d'autres volets qui concernent l'organisation et les conditions de travail des personnels. Et sur ce point, la CGT estime n'avoir pas été entendue. Mireille Stivala, secrétaire générale de la Fédération Santé et Action Sociale CGT.
On sent quand même qu'il y a une grande déception, mais il y a d'autres éléments dans l'accord qui posent question. La volonté d'annualiser le temps de travail, les professionnels ont le sentiment qu'on va leur demander de travailler plus et que malheureusement ils ne seront pas plus nombreux. Et la deuxième priorité, en tout cas au-delà de la question salariale, d'améliorer ou de donner des tendances fortes et des mesures fortes pour améliorer leurs conditions de travail. Ils ont le sentiment que celles-ci ne sont pas remplies non plus.
Un point noir sur lequel se rejoignent les syndicats favorables et défavorables à la signature, l'absence de la filière sociale et médico-sociale, totalement exclue de l'accord. La CFDT, Force ouvrière et l'UNSA ont déclaré être signataires. Elles représentent la majorité syndicale. Il y a donc de grandes chances que l'accord soit entériné. Un comité de suivi doit être créé pour contrôler sa mise en application.
Le port du masque pourrait être développé, notamment dans les lieux clos. Le Premier ministre Jean Castex l'a affirmé hier pendant sa visite en Guyane. C'est selon lui l'une des manières de prévenir la propagation de l'épidémie de Covid-19. Déclaration faite alors que samedi soir avait lieu un concert à Nice auquel 5000 personnes se tenant trop proches les unes des autres ont assisté sans porter toujours de masque. Des images de cette soirée ont fait polémique. Le maire Christian Estrosi rend désormais obligatoire le port du masque lors des événements organisés par sa ville. Les mesures européennes prises pour sauver les insectes pollinisateurs sont inefficaces, a estimé la Cour des comptes européenne dans un rapport la semaine dernière. L'une d'elles, l'interdiction des néonicotinoïdes, agace les acteurs de la filière de la betterave. Dans les Hauts-de-France et la Picardie, où elle est très cultivée, les plantations souffrent d'une maladie causée par un puceron, la jaunisse des betteraves, une sorte de pandémie végétale qui pourrait affaiblir la filière, estime les betteraviers. Ils n'ont pas ou peu développé de filière biologique. Explication d'Anne Lerchouin.
Depuis septembre 2018, les produits contenant des néonicotinoïdes qui détruisent le système nerveux des insectes, notamment pollinisateurs, est interdit en France. Or, les agriculteurs betteraviers avaient l'habitude de l'utiliser directement dans l'enrobage des semences, ce qui permettait d'éviter un traitement après l'apparition du puceron. Ils critiquent aujourd'hui, via leur syndicat, la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves, une interdiction qui les oblige à multiplier les pulvérisations d'insecticides encore autorisés, mais moins efficaces, une mesure, selon eux, qui transfère le risque sur les agriculteurs eux-mêmes. Alors que, estime-t-il, les abeilles ne venaient pas sur les betteraves qui ne font pas de fleurs avant la récolte. Un argument réfuté par les associations écologistes qui font valoir que si les abeilles ne sont pas attirées effectivement par les betteraves, elles le sont en revanche par les adventices, ces herbes et fleurs qui poussent au milieu des cultures liserons, chardons ou réséda. Les cultivateurs ont obtenu une première dérogation en obtenant le droit d'utiliser un insecticide, le TPK, plus tôt dans le stade de développement de la plante, mais les hivers doux et les printemps chauds qui risquent de revenir de plus en plus fréquemment vont certainement favoriser ces attaques massives de pucerons. Quant à la filière biologique de betteraves, elle en est encore à ses balbutiements. En attendant, la récolte 2020 pourrait bien voir chuter les rendements de 30 à 50%.
Anne-Laure Chouin. Le temps aujourd'hui est instable sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse. Plus calme au nord avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation ce soir. Comptez au plus chaud de la journée 27 degrés à Paris, 22 à Brest, 29 à Bordeaux et 30 degrés à Lyon, Chloé.
Merci Margot Delpierre.